8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades.
Allô, les amis, vous êtes là?
Bah bien sûr, on est là,
Charline. Oui, je suis là, les gars. Mais si on peut faire très rapidement la conf de rédac, parce que moi, après, j'ai rendez-vous avec ma psy.
Ah, bah, et tu vas chez le psy, toi?
Ça, alors?
Oui, c'est le déconfinement, ça m'angoisse. Ah. Alors, j'en vois une, quoi.
Parce non, mais attends, tu oses sortir...
T'es fou, toi, je fais en visio, j'en ai besoin, parce que...
Non, mais depuis le confinement, tu veux dire?
Non, le confinement, ça, je me suis très vite habitué. C'est vraiment le déconfinement, ça m'angoisse.
Ah et... oui, de vivre normalement qui t'angoisse.
Voilà, j'ai constaté, par exemple, dire bonjour à des gens, ça me crispe.
Oh, mais les gens, c'est le sel de la vie, Alex.
T'as le droit de penser ça, toi. Mais écoute, je vais te dire, c'est bien simple. Depuis que je ne te vois plus, eh ben, les plaques rouges sur mon visage, c'est parti.
Ah ouais,
mais attends, elle te fait du bien, ta psy. Je veux dire, elle a des solutions à cette angoisse existentielle, par exemple.
Eh ben, plein. Déjà, elle trouve que je suis surmenée.
Oh. Et ah c'est bon vrai. Ah bah d'accord.
Ouais, elle m'a conseillé vraiment de me lever un peu plus tard le matin, par exemple.
Ah bah d'accord, genre quelle heure?
11h30 minimum.
Mais, ah ouais.
Mais c'est l'heure de l'enregistrement, ça, Alex?
Eh bah parfait, comme ça je serai pile à l'heure pour l'émission.
Mais comment tu fais pour la préparer, cette émission, alors?
Non mais attends, Charline, ça s'entendrait s'il la préparait.
Oh, ça va.
Dis donc, ta psy, ce serait pas un petit peu l'incarnation de ta flemme, par hasard?
Pas du tout, mais elle me propose des trucs très concrets pour déconfiner progressivement, tu vois.
Ah, c'est bien ça. Alors laisse-moi deviner, sortir le moins possible, parler avec les oiseaux, arrêter toute activité.
Voilà, c'est ça, prendre le temps de me consacrer à des projets personnels, des choses épanouissantes pour moi, tu vois.
Ah tiens, d'accord.
Voilà, comme faire la sieste, voilà, ça c'est vraiment, pour le cerveau, c'est très bon, vous saviez ça que c'est bon pour
Donc si je comprends bien, là, tu nous annonces que tu quittes l'émission, quoi.
Non, mais pas du tout, mais c'est vrai que je vais y aller un peu plus mollo.
Mais sinon, elle t'a rien dit de contrariant, là, madame la psy, là?
Si. Ah. À la fin, elle me dit toujours, ça fera 120 euros, et ça m'angoisse aussi, ouais.
France Inter,
bonjour.
Vous écoutez l'émission qui place l'actualité en quatorzaine afin de lui éviter tout contact avec l'esprit de sérieux. Et voici la citation du jour. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, à 100 km. Sinon, je vais avoir chaud aux fesses.
Ah, c'est beau.
Bonjour, c'est Juliette Arnaud.
Bonjour, Charline.
Vous relisez les classiques et cette semaine, vous proposez votre analyse de Don Juan, où l'on peut lire cette phrase « Tous les vices à la mode passent pour vertu ».
Vous aurez aisément reconnu les célèbres vers que Jean-Baptiste Molière écrivit au début du siècle.
Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour les amis.
Toutes les plages de France qui sont de nouveau accessibles sont des plages dites dynamiques. C'est-à-dire que on met les pieds dessus, c'est pour les bouger. Vous vous êtes donc demandé à quoi va ressembler Paris Plage Dynamique cet été.
Allez les filles, on se bouge, on avance, la bombe ne peut plus appartenir, la petite fourrière là, allez, et on se sent les doigts.
Et bonjour Thomas Croisière.
T'avais les cheveux châtains, les Rolling Stones sur ton t-shirt, on s'est connus comme ça, au soleil, mais pas au même endroit.
Oh là là,
ça, David, ça lui est venu comme ça. Faut surtout pas brider l'inspiration, hein, moi je laisse faire. Le bonheur pour vos enfants, Alfred et Gaston. Ils ont revu la mer et découvert le film de Jean-Yann, 2h15 avant Jésus-Christ.
Je suis trop heureux, je mate. C'est beau comme une crèche.
Alex Bizorek, vous êtes encore là?
Mais oui, Charline, je suis toujours là, à vos côtés, comme un ramequin de frites à côté de sa casserole de moule. Et ouais, je fais ce que je peux en métaphore. Voici le menu du jour. J'ai deux très beaux morceaux de chroniqueuses à vous proposer. À l'une, pas toujours tendre, qui nous vient du Nord, c'est Constance. Et l'autre, hors de prix, mais que voulez-vous? C'est ça, les produits de luxe. Clara Dupont-Mono, bonjour.
Oui, bonjour Alex. Bah, je suis toujours là, comme une louchée de caviar à côté d'une poêlée de girolles.
Évidemment, nous ne fréquentons pas les mêmes lieux. Il y aura également Mélanie Bauer qui viendra nous proposer ses invendus. Ajoutez à cela un dessin touchant, des exercices piquants, un journal saignant et vous avez tout ce qui se passe dans mon restaurant.
Vous misez sur tout ce qui marche en ce moment, vous, Alex, j'ai l'impression. Hein.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
ça n'a pas suffi de ne pas pouvoir jouer votre deuxième spectacle. Maintenant, vous voulez ouvrir un restaurant fermé.
Ça s'appelle le flair.
C'est le flair. Bah, profitons-en alors, je dirais. Commençons sans attendre.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupidémie.
Bon, d'abord, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en bonne santé?
Oui, ça va.
Clara Dupont-Mono, vous êtes rentrée des Cévennes, vous êtes de nouveau à Paris.
Oui, je ne parle plus aux sangliers ni aux arbres, désormais à des êtres humains, mais masqués.
Qu'est-ce que ça fait de passer de zone verte en zone rouge, alors ?
Eh ben, j'aimais bien les sangliers parce qu'ils n'étaient pas masqués.
Alors, Constance aussi va bien. Je dirais, heureusement qu'elle n'a pas chopé le Covid, parce qu'elle est tellement plusieurs dans sa tête qu'elle pourrait fermer un cluster dedans. Ce serait quand même assez dangereux. Alors, on va lui dire bonjour, Constance, mais surtout, comment allez-vous ?
Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maya. Le 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles et tout le monde s'en fiche. Mais parce qu'il n'y en a plus que pour le pangolin en ce moment, mais que veux-tu ? Non mais faut comprendre, au pire, qu'est-ce qu'on risque avec les abeilles ? Une allergie avec une petite piqûre ? Une chiassounette avec du miel frelaté ? Oui, mais on est loin de la pandémie. Vous êtes nuls en com, les abeilles ! Nuls ! Mais oui, mais c'est comme ça maintenant. Si tu veux exister médiatiquement, faut frapper fort, faut faire le buzz. Non, j'ai pas fait cette blague parce que t'es une abeille. Mais non, je suis pas raciste. Attends, j'ai plein d'amis abeilles, hein. J'ai même parfois le bourdon, alors c'est pas à moi qu'il faut dire ça, hein. Bourdon, abeille. T'as compris ? C'est un jeu de mots. Ah, t'as pas d'humour parce que t'es une abeille, c'est pour ça. Mais... pour en revenir à ce souci de journée mondiale qui passe à la trappe, moi je veux bien essayer de t'aider, je pourrais éventuellement faire une petite chronique sur ta communauté dans Par Jupidémie, mais je peux pas te garantir que ça fera véritablement bouger les choses. Bon, ça devrait au moins intéresser Juliette, pas parce que c'est un thème apicole. Mais je préfère te prévenir tout de suite qu'on pourra pas aborder tous les sujets. Mais parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit en ce moment. Et je pense que les gens ne sont pas prêts à entendre que le miel, c'est du vomi d'abeille. Mais c'est comme ça. Les gens, ils sont dans leurs habitudes. Ils ont peur dès que tu changes un petit peu les choses. Ils préfèrent parler de leur lune de miel plutôt que leur voyage de vomi d'abeille. Mais oui, mais regarde, c'est tout bête. Un exemple. Le lait de vache, on en bouffe tous les jours. Du fromage, des yaourts, de la crème fraîche. Mais essaye de changer un petit peu les habitudes des gens. Propose à tes invités des yaourts au lait maternel ou du fromage au lait de chatte, même bio, hein. Bah, tes amis n'ont jamais chez toi à manger. Mais parce que tout est une question d'image, du conditionnement mental. Tu ne peux pas dire la vérité. Ça fout trop le bordel. Tu veux foutre toutes les illusions des gens en l'air ? Tu veux que Winnie l'ourson passe pour un gros dégueulasse qui bouffe du vomi d'insectes pollinisateurs ? C'est ça ce que tu veux ? Hein ? Non, il faut être plus maligne que ça, Maya. Il faut être stratégique. Il faut changer d'image. Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui ? Le cul, le cul, le cul. C'est le cul. Pardon, mais oui, mais c'est le cul. Le cul, le cul. Je l'ai dit beaucoup de fois, mais ça me fait beaucoup rire de dire le cul sur France Inter. Je me suis beaucoup dire guirlande de saucisses, mais ça n'a rien à voir avec le sketch. Et donc, qu'est-ce que les gens veulent entendre sur les abeilles ? Que vous êtes certes des petites abeilles, mais que vous êtes super bien montées, des abeilles à gros dard qui cherchent les fleurs aguicheuses. Et à longueur de journée, vous faites leur affaire aux plantes angiospermes qui demandent que ça. Mais elles font monter leur taux de sucre pour vous attirer les plantes. Elles montent leurs petits pétales de toutes les couleurs, très très courts. Et pour montrer leurs tiges, elles n'ont honte de rien ces fleurs, Pauline, avec du pollen. Elles sont chaudes. Oh, et il y a des orchidées qui sont connues pour être des sacrées salopes, hein. Et les humains qui aiment bien mater, qui sont des voyeurs, qui adorent les réseaux sociaux, qui sont nourris à ça. Ben, si tu leur dis ça, ils vont regarder les abeilles autrement. Et puis du coup, ils vont arrêter de les empoisonner, les abeilles, c'est sûr. Et voilà, c'était ça ma solution, ma petite Maya, pour sauver les abeilles des humains. Bon allez, je t'envoie ma facture Paris Miel. Vous avez pas d'humour les abeilles, putain, c'est pénible, hein.
Ça va mieux, Constance, j'ai l'impression.
Oui.
Ah
oui,
ouais,
oui.
Si.
Oui, oui, oui.
Ah oui, hein, clairement.
Oh, on est d'accord, on est rassurés. Merci Constance qui envoie ses chroniques depuis l'Oise. Et si on passait des abeilles aux singes de l'Arctique, vous me suivez ou pas?
Ah, oh là là.
Ouais, ah, la transition. Voilà.
Il y en a une qui suit, Juliette. Oh, Clara Dupont-Mono. Vous connaissez l'Arctic Monkeys?
Oui, mais j'y connais, j'y connais, j'y connais.
Bon, allez, allez-y, hein, musique. C'est
The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind, left you multiple missed calls into to listen, more I get through the gears, incapable of making all right decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind, left you multiple missed calls, until my message you replied. Why'd you only call me when you're high, high, why'd you only call me when you're high?
Why do you only call me when you're high? C'était les Arctic Monkeys sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, où on sent doucement que la politique reprend le dessus. Il va y avoir un nouveau groupe à l'Assemblée nationale de dissidents à l'REM.
Et il se passe des choses.
Plus il y a de groupes, plus il y a de blagues, j'ai l'impression.
Oui, oui, oui. Pas faux.
C'est terrible de prospérer sur la division comme ça.
Oui,
parfois, je nous dégoûte.
C'est limite. C'est
limite. Voilà, passons au journal.
On aurait dû discuter
propre. Je peux lui faire la main de cœur.
Le journal de presque 17h17.
Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
Et on commence par les titres.
Dans une interview accordée à BFM TV, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Nous n'avons jamais été en rupture de masque
». Quelle excellente idée de préparer ces interventions télé avec Sibeth Ndiaye.
Donald Trump, lui, a annoncé prendre de l'hydroxychloroquine depuis une semaine et demie.
Alors le professeur Raoult, ça m'étonnerait qu'il obtienne le prix Nobel de médecine, mais si Trump y passe grâce à son traitement, il va peut-être avoir le prix Nobel de la paix.
Et les brèves.
Ah, prix Nobel de la brève, ça, j'ai une belle longueur d'avance sur tout le monde.
Et on commence par le monde d'après.
Et oui, et ce matin, pour évoquer le monde d'après, sur France Inter, un grand spécialiste du monde d'après.
Pierre Rabhi, non?
Non, pas Pierre Rabhi, bien sûr que non.
Thomas Piketty.
Non, Alain Finkielkraut. Oui, vous connaissez la différence entre un astrologue et un philosophe?
Non.
Eh bien, l'un vous raconte n'importe quoi sur le futur, et l'autre vous raconte n'importe quoi sur le présent, ce qui est beaucoup plus difficile. Bref, Nicolas Demorand l'a interrogé sur la prise de parole d'Emmanuel Macron pour les métiers du spectacle.
Comment avez-vous trouvé cet échange?
Étrange. J'ai trouvé le président de la République un peu, familièrement allumé.
Il était allumé. Et ben pour une fois, je suis d'accord avec Alain. Ça, c'est le monde d'après. En espérant qu'on trouve l'interrupteur bientôt.
Alors, c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Alors, non, vous en parliez en titre sur BFM TV. Emmanuel Macron a répondu à une question simple. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques?
Voilà. Et si un gros bobard se définit par le nombre de fois où tu ne termines pas ta phrase quand tu réponds, je vous laisse juger la véracité de la réponse d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de montage.
Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. Et n'ayons pas ce syndrome. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive.
10 fois, il a recommencé sa phrase.
Oh là là, une politique encore, avec la création d'un 9e groupe à l'Assemblée nationale nommé Écologie, Démocratie, Solidarité. La République En Marche a donc perdu sa majorité.
Bah dites donc, déjà qu'il aimait beaucoup trop La République En Marche, et en plus elle est plus majeure, Daniel Cohn-Bendit va être comme un fou.
À ce sujet, Bruno Le Maire est revenu sur les députés frondeurs qui ont quitté LREM en déclarant regretter les divisions.
Eh oui, c'est un scandale. Ces gens qui quittent un parti politique qui tangue. Moi, j'avais plus vu ça depuis 2017, quand Bruno Le Maire avait quitté les Républicains. Mais
On sent que la politique reprend le dessus. Hein,
ça monte.
Le deuxième tour des municipales approche. Déconfinement, selon un sondage, 38% des 18-24 ans préfèrent rester chez eux.
Oui, bah attendez que Pornhub coupe l'accès premium, ça va te changer la statistique.
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a déclaré à propos de la reprise de la Bundesliga que des considérations économiques ont guidé la reprise du football en Allemagne, elle le regrette.
Eh oui, alors que nous, en France, par exemple, la réouverture des écoles, c'était vraiment guidé, là, plutôt par des considérations pédagogiques, vous voyez. C'est ça la grande nuance.
Ouais. Des brèves.
En Gironde, une émission de radio remplace le parloir de la prison pour permettre aux prisonniers de discuter avec leurs proches. Et
j'ai entendu ça. Ils ont reçu Carlos Ghosn, Bernard Tapie.
Non, ça c'est le 7h55 de Léa Salamé à la matinale. Non, pas du tout.
Autant pour moi. Allez-y de la dernière alors.
Oui, la dernière. Pour les amateurs de jeux de mots, accrochez-vous à votre slip. Attention.
Moi je vais couper. McDonald's. Moi, je vous écoute pas là.
McDonald's a été accusé devant l'OCDE d'avoir toléré la culture du harcèlement sexuel. En gros, on peut dire que McDonald's, c'est des Big Mac.
Moi j'avais coupé, de toute façon, j'ai pas entendu là.
Non, mais pas là.
Bien de finir sur une forte aussi, quoi. Comme ça, les gens restent sur un bon souvenir, quoi.
Je crois que ça a coupé, ouais. Je crois que ça a coupé aussi chez moi, parce que j'ai pas entendu de rire. Ah, vous êtes là?
Je la refasse,
je suis dans le métro, j'ai pas entendu.
Enregistré dans un tunnel.
Ça a coupé chez les gens aussi, a priori. Les gens n'ont pas entendu.
Toujours, c'est vous qui me l'avez appris, toujours soigner sa chute.
C'est important. Faut finir.
Et voilà où on en est. Alors, Juliette Arnaud, je note que vous avez attendu que nous soyons déconfinés pour décider de cohabiter quelques jours avec Don Juan.
Oui.
À moins que ce ne soit Molière, dont vous soyez méfié pour le huis clos, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous proposez une lecture en 3 volets. Hier, le réquisitoire contre Don Juan. Aujourd'hui, la plaidoirie. Mais attention, elle ne peut démarrer qu'après un jingle que je dois exécuter à votre demande cette semaine.
Tout à fait.
C'est le classique à Juju. C'est le classique que l'on est.
Non, merci. Voilà, merci beaucoup. On vous rappellera. Allez-y, Juliette.
Je suis dans le métro, moi. J'ai coupé aussi comme Maurice.
Juliette, c'est à vous.
Ok. Merveilleuse et terrible pièce, disait Jouvet en 1947. Dramma giocoso, le drame joyeux, c'est-à-dire une pièce qui va de la comédie pure au drame implacable, où Molière procède à un éclatement de l'action afin de placer Don Juan et Sganarelle perpétuellement en fuite face à de nombreux personnages, à des situations variées permettant de mettre en lumière les multiples facettes de son personnage principal. On ne peut pas réduire Don Juan à une seule chose, comme l'a fait hier ma consoeur. Don Juan, c'est beaucoup de subtilité pour ma faible consoeur qui est à la nuance ce que Guillaume Meurice est au gainage. Peu de choses, en vérité, peu de choses, mais soit. Un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Sganarelle le dit. Molière lui met ces mots dans la bouche et c'est Molière qui jouait Sganarelle à la création de la pièce en 1665. La messe est dite. Don Juan est bien né, grand seigneur, et il n'est pas gentil. Mais il est aussi une terrible chose. Or, terrible a au moins deux sens. Ce qui inspire de la terreur et extraordinaire. Et extraordinaire, Don Juan l'est. Louis XIV ne permettra pas une autre fronde, alors il tient sa cour en laisse, comme jamais roi avant lui, et Don Juan refuse de se laisser domestiquer. Ça, c'est pour le XVIIe siècle. Et si c'est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, au moment où intellectuellement, moralement, toutes les cartes sont singulièrement rebattues, que débute l'emballement pour la pièce, il n'y a pas de hasard. C'est que Don Juan, le personnage, incarne l'homme révolté, l'homme qui refuse de croire comme les institutions le lui ordonnent. Bref, il ne négocie pas son libre arbitre, c'est l'homme qui dit non, mettant son courage physique au service de sa révolte, aller par exemple dans la pièce au secours d'un homme qui ne lui est rien, mais qui est seul contre trois, conserver sa curiosité des choses, y compris lorsque la mort en personne, sous la forme d'une statue d'un homme qu'il a tué en duel, vient l'inviter à souper. Sganarelle panique et Don Juan s'exclame « Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est ». La terreur ne le conduira pas au repentir. Don Juan sait bien qu'il va mourir et il le sait sans doute depuis le début de la pièce. Comme Phèdre, il aurait pu dire dès le début « Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ». Don Juan est un mort-vivant. Le festin de pierre n'aura pas lieu. En d'autres mots, la fin est proche. Il s'agit de faire face à la chute finale du rideau. Tiens, on dirait d'autres mots très célèbres d'un homme ambivalent lui aussi, qui chantait, je vais vous le faire entendre, mais d'abord je vais vous traduire en français. Oui, parfois, tu le sais, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais au-delà de tout, quand j'ai eu un doute, je l'ai gobé et je l'ai recraché et j'ai fait face en me tenant droit à ma manière. Yes, sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Merci Franck, Don Juan, merci, bisous, merci.
Je pense qu'Ava Gardner aurait dit que Frank Sinatra était un Don Juan, non Juliette?
Oui, bien sûr, elle a dit d'autres trucs aussi sur Frank Sinatra, faites des recherches, c'est très amusant.
Merci Juliette, bonne idée d'achever une plaidoirie en chanson. Je sais pas si ouais. Ça se fait, si c'est très réglementaire, mais
je crois que ça n'est pas réglementaire.
Ah, mais c'est ça qu'on aime. Et donc demain, troisième volet, vous nous proposerez alors
bah, la décision de la cour.
Oh, ah ouais, carrément. Vous faites ouais. Alors vous faites tous les rôles vous.
Oui, je suis une agent en pleine schizophrénie, c'est l'école Constance.
Très bien, merci Juliette Arnaud. Restez avec nous, bien sûr. Les auditeurs qui nous suivent tous les jours connaissent le fonctionnement de cette émission. Le premier disque, c'est un standard, un classique. Le dernier disque, c'est la playlist France Inter. Et entre les deux, hein, entre les deux, c'est peut-être Alex qui en parle le moins mieux.
Non, vous avez fait une erreur, parce que vous avez dit que la première chanson, on était censé la connaître. Et ben, moi, ça m'est jamais arrivé. Depuis le début de l'émission, jamais j'ai reconnu. Moi, je pensais qu'en fait, entre deux disques inconnus, il y avait un disque improbable. Et c'est celui que je choisis. Mélanie Bauer. Coucou, Mélanie.
Bonjour, docteur. Je possède un problème.
Parfait. Et quel est-il ?
J'ai un petit peu l'impression que l'existence est un énorme tas de merde.
Et je pourrais savoir pourquoi, s'il vous plaît ?
Pour de multiples raisons, que je vais vous expliquer.
Bonjour les jupidémistes !
Bonjour Mélanie !
Les gens n'en finissent pas de décéder et le monde continue de tourner dans sa grande valse à trois temps. N'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. La vie, la mort, le temps, tout ça. Alors je vous ai trouvé un disque parfait pour accompagner vos hauts et mes bas. Bolivar,
Il est graphiste et directeur artistique du label Cookie Records, aussi dessinateur, réalisateur, DJ, musicien et bien sûr, une belle plume. La jeunesse est ainsi, elle sait tout faire car le média est devenu interchangeable, un simple outil pour la création. Il se proclame bipolaire et sa création est sans nuance de gris, blanc ou noir, c'est comme ça.
Sauvons la planète, sauvons la liberté, sauvons l'unité, sauvons la diversité, sauvons les femmes, sauvons les amalgames. Sauvons la démocratie. Sauvons Patrick Balkany.
Nous sommes tous névrosés, carapacés dans nos illusions de contrôle, tels des magiciens du quotidien, élevés à la méthode Coué. Tout va bien, je vais bien.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous n'allez pas bien et que vous avez besoin d'un traitement.
Il y a ceux qui croient encore au mythe américain du winner et il y a les anti-héros, Batman de la vie, jamais complètement sûr de faire le bien. Évidemment, nous sommes tous un peu heureux de notre malheur, un peu tristes dans nos joies. Car oui, nous sommes mortels. Alors...
Il était une fois un homme qui regardait des vidéos sur YouTube dans son appartement de 8 mètres carrés à 1000 euros par mois. À force de voir des documentaires sur les complots mondiaux et la fin des temps, il avait oublié de dormir et de s'alimenter. Quelqu'un frappa à la porte. Il alla ouvrir. C'était la Grande Faucheuse.
Bonjour, je suis la Grande Faucheuse. Je viens vous informer que vous venez de décéder.
L'homme fut très mécontent de cette nouvelle. Il répondit : Je ne veux pas mourir.
Pourquoi donc ?
Car j'ai peur.
Mais ne vous en faites pas. En réalité, la mort n'existe pas. Tous les êtres vivants sont immortels. Mais il y a quelques milliers d'années, la surpopulation a commencé à poser des problèmes, car il n'y avait plus assez de place et de nourriture pour tout le monde. Le gouvernement a donc décidé de faire croire que la vie s'arrêtait un jour à cause de maladies imaginaires, telles que la vieillesse ou le sida.
L'homme fut surpris. Il demanda « Mais alors, si je ne suis pas mort, pourquoi êtes-vous là ?»«
Nous allons simuler votre mort. Je laisserai un mannequin à votre effigie en guise de cadavre et vous serez emmené dans une fusée avec tous les autres gens décédés aujourd'hui. Puis vous serez tous expédiés sur une autre planète. »
Ainsi, sur une planète lointaine, l'homme vécut pour toujours. Mais après quelques siècles, il commença à se faire royalement chier. Vivre lui devint intolérable, et il passa l'éternité à maudire la nature d'être aussi mal faite. Quel dommage que la mort n'existe pas.
Bolivar, le EP Docteur Bolivar, ça sort le 5 juin sur Cookie Records. Et un tuyau beauté, avant de partir, ne jamais mettre du rouge à lèvres sous le masque et bien se laver les dents, sinon ça pue. À bientôt les amis.
Merci Mélanie pour ce conseil. Hein. C'était donc la séquence maquillage, hygiène et musique par Mélanie Bauer. Merci.
C'est important.
Alors Alex, qui est-ce qu'on va entendre maintenant ?
Eh ben, nous avons déjà entendu Juliette, Arnaud et Constance, même si elles ne sont que deux. On entendra encore Thomas Croisière, le Tom Cruise français, et Clara Dupont-Monod, la Mélania Trump-Sévenol. Mais avant ça, ouais, j'essaie de trouver des petites comparaisons qui parlent aux gens.
C'est gentil.
Nous allons passer par celui qui, sur la plage, aimerait ressembler à David Charvet, alors que malheureusement, on est tous d'accord que musculairement, il est plus proche de Laurent Deutsch. C'est Guillaume Meurice.
Oui, attention, parce que je fais du gainage. Hein. Je vous ai dit
oui,
je faisais du gainage.
J'ai eu cette info. J'ai eu cette info.
Bon, en tout cas, ça déconfine petit à petit avec plein d'aménagements très, très chouettes. Par exemple, pour la fête de la musique, Franck Riester, il a dit qu'elle devait avoir lieu, mais sans prendre de risque. Alors que le principe de la fête fête de la musique, c'est quand même de reprendre des chansons de téléphone au banjo électrique en pleine rue, qui est quand même l'exacte définition du risque. Bon, donc on verra comment ça va se passer. Deuxième dispositif que j'ai bien aimé, les messes en drive-in. Oui. Alors ça, c'est donc un grand parking avec des bagnoles où les gens viennent écouter un évêque. Alors ça, c'est vraiment superbe. Les enfants de cœur arrivent en karting. D'ailleurs, si Jésus il redescend sur Terre, ce sera en Punto. Il y a quelques cathos intégristes qui vont trembler les genoux, mais c'est comme ça. Et il y a le troisième dispositif dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est celui qui me plaît le plus, ce sont les plages dynamiques. Alors, qu'est-ce que les plages dynamiques? Ce sont des plages ouvertes au public, mais où il sera interdit d'être statique. Donc, pas question de rester posé sur sa serviette en mangeant son sandwich au sable. Ça, c'est terminé. Il va falloir se remuer les miches. Donc, moi, je suis allé sur les quais de Seine, là où a lieu normalement Paris-Plage, pour voir si les gens sont prêts pour Paris-Plage dynamique. C'est la question du jour. En tout cas, il y a déjà des gens qui squattent dans l'herbe au bord de l'eau, bien peinard. Donc je suis allé les emmerder, hein. Je vous rappelle que je suis payé pour bien faire chier les gens et éviter qu'ils se reposent tranquillement, hein. J'ai la même fiche de poste que Muriel Pénicaud. On commence avec un premier monsieur qui était tranquille et était là avec sa bouteille.
On sort, on a un peu de rosé et on est heureux.
Est-ce que vous êtes dynamique là?
Non, pas de dynamique, nous on est statique et on est dans l'équilibre. Avec le rosé bien sûr. Ben ouais, parce que c'est un équilibre entre le blanc et le rouge.
Oui, alors, oh là là, attention, parce que moi aussi, je lis Juliette Arnault Magazine, mais attention, il s'agit pas d'équilibre, là, les gars. Il s'agit d'être dynamique. Et moi, j'ai fait quelques soirées avec l'équipe de Par Jupiter. Au bout de quelques bouteilles de rosé, il y en a qui sont plus très, très dynamiques. Bon, allons voir un monsieur qui était en train de lire, lui, tout à fait tranquillou. Est-ce qu'il aime bien le concept de plage dynamique?
Non, j'aime pas du tout ce concept, parce que je préfère être assis au soleil et puis et bouquiner.
Ouais, c'est un jour où vous prenez une amende parce que vous bouquinez, là.
Bah, je trouve pas ça très juste, quoi.
Peu importe la lecture?
Peu importe la lecture.
Même si c'est un Marc Lévy, est-ce que ça mérite pas une amende, quand même?
Bon, peut-être.
Ah oui, il faudrait penser à ça, parce que là, normalement, on est sur une double sanction, même si on a hâte, évidemment, du Marc Lévy post-coronavirus, la sortie de son livre, hein, Amour démasqué, la rencontre entre un professeur de médecine et une étudiante prénommée Chloroquine, ça va être vraiment génial. Alors peut-être, le seul moyen de pas se faire emmerder par les flics en lisant, c'est de choisir l'autobiographie du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, un très bel ouvrage qui s'appelle « Du tofu au tonfa ». Ou comment réussir dans le milieu de la violence avec un physique de lâche. C'est vraiment un très 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 beau livre que je conseille. Désolé, je vais un peu sur votre plate-bande, Clara, mais voilà, c'est un conseil livre. Alors, allons voir une autre feignasse qui n'était pas très pour non plus le principe de plage dynamique.
Le principe, c'est de mélanger les gens à la plage. On peut traverser la plage, on peut aller se baigner, mais si on veut se poser, on peut pas se poser, on doit retourner. Ouais, c'est un petit peu particulier.
Ouais, on peut pas se sécher, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui. Le concept de baignade dynamique, c'est que t'arrives, tu vas dans l'eau, tu sors et tu te casses. Et tant pis pour ton bronzage. Alors, ça gueule en région PACA. Mais bon, c'est une région qui vote Éric Ciotti et Marion Maréchal. C'est quand même fou le nombre de racistes qui veulent bronzer. C'est vraiment de la haine de soi à l'état pur, ce truc. Voilà, moi, ma haine, c'est les gens qui glandent. Alors, pareil, il y a deux jeunes posés à rien foutre.
Faut se bronzer, faut profiter, faut discuter, faut faire des... Ben, c'est ce que je pense, moi.
Vous avez pas l'air hyper dynamique?
Non.
C'est quoi le prochain truc dynamique que vous avez prévu?
On va voir.
Oh là là, putain. C'est pas comme ça qu'on va reconstruire la France, les amis. Ouais, je veux bien qu'on puisse gagner sa vie à glander, mais bon, tout le monde ne peut pas être sénateur, quoi. Ni à la DRH de Radio France, il n'y aura pas assez de postes. Bon, alors, j'ai quand même repéré parmi ces feignasses une personne avec un vélo. Donc je me suis dit, peut-être que là, on a affaire à une personne dynamique, n'est-ce pas, monsieur?
Ah, très, très.
C'est un vélo électrique, quand même.
Il est électrique, ouais.
Ah, donc vous êtes semi-dynamique.
J'habite tout en haut de la montagne, et donc pour remonter...
Genre de quelle montagne?
Mille-Montants.
Ouais. Vous êtes même pas semi-dynamique, vous êtes un quart dynamique alors.
Ouais.
Ouais, parce que Mille-Montants, c'est pas le Tourmalet non plus, hein, attention.
Mais ça monte, ça monte.
Ouais,
tu l'as jamais
ça monte. Ça monte, mais bon, faut pas exagérer, c'est pas hors catégorie. Moi, je fais le malin parce que je suis sportif de assez haut niveau. Je vous ai dit que je faisais du gainage ou pas? Ouais, je fais du gainage, donc je connais bien le délire, quoi. Hein, un corps comme ça, comme le mien, ça se sculpte, hein. Regardez Alex, bah, il le sculpte son corps avec des andouillettes, mais il le sculpte quand même, chacun son truc. Allez, concluons avec ce même monsieur et puis sa sœur.
Ma sœur qui est confinée sur la Côte d'Azur, la pauvre, m'a dit bah, on a droit d'aller sur la plage, mais on peut pas s'asseoir. Et alors, ça m'amusait parce que je l'ai eu au téléphone quand elle se plaignait de ça. J'étais ici même hier après-midi. C'est super beau. Donc, chaque mètre carré de terre, d'herbe, était comblé de gens, le cul par terre en train de bronzer. C'était, je lui dis, bah, tu sais, à Paris, les plages sont statiques.
Eh ouais. Chez comme on dit, quand on veut faire croire qu'on vient de la Courneuve alors qu'on a grandi à Vesoul. Et oui, à Paris, on peut bronzer les uns sur les autres et pas la grande motte. L'unité nationale, ça tient à rien du tout. Des consignes contradictoires et absurdes et tout tombe à l'eau.
Guillaume Meurice, merci. Ah, que c'est bon de vous retrouver dans la rue.
Ça me plaît bien aussi.
On entend bien que ça vous plaît bien. Je vous propose de passer au cahier de pas de vacances avec des exercices. Alex, vous avez un premier à nous proposer.
Et bien sûr, une question Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, attention, prenez bien note, hein, parce qu'il y a des chiffres dans ces questions-là. Il a fallu 3 minutes à Uber pour licencier 3700 personnes en vidéoconférence. La start-up s'apprête à virer 3000 personnes supplémentaires. Si tu calcules le nombre de gens virés à la seconde lors de la première visioconférence, devine la longueur de la prochaine visio de licenciement, même si au final, on espère tous qu'Uber va battre son record. Ah merde, non, ça c'est Geoffroy qui a terminé l'exercice pour moi.
Ah oui, pardon. Il me semble bien, oui.
Voilà, point.
À mon tour. Alors, Michel Piccoli nous a quittés. Vous l'avez appris hier. Laquelle de ces citations du ministre de la Culture, Franck Riester, ne reflète pas une vérité absolue ? Petit A, Michel Piccoli va nous manquer. Petit B, c'était un monstre sacré. Petit C, quel grand homme. Petit D, son charisme m'a beaucoup inspiré. Guillaume, c'est à vous.
Alors, question très très simple, mais de culture générale. Qu'est-ce que le pont de l'ascension ? Réponse A, c'est une posture de yoga. Réponse B, c'est un long congé qui relie un jeudi de mai jusqu'au week-end, soit 4 jours de somme pour le MEDEF. Réponse C, c'est une étape du Tour de France que les cyclistes vont sans doute faire sous la neige cette année. Et réponse D, c'est le pont qui se situe juste au-dessus du tunnel de l'Alma et qu'aurait mieux fait de prendre Monsieur Paul, le chauffeur de Lady Di, pour les plus jeunes d'entre nous.
Les corrigés sont à retrouver sur franceinter.fr, la page de l'émission, ou notre page Facebook. Et voici qu'elle a quitté les Cévennes, elle est de retour à Paris, mais dites donc, Alex, elle a largement dépassé les 100 km réglementaires, là, j'ai l'impression.
Mais oui, mais la ville lumière n'éclairait pas suffisamment en son absence, alors elle est revenue. Clara Dupont-Mono, comment allez-vous ?
Ça va bien, Alex, je vous remercie. Bonjour à tous les déconfins. Alors, vous savez, certainement vous ne le savez pas, mais il se trouve que la littérature a un point commun avec cette émission par Jupidémie, c'est qu'elle adore casser les mythes. Son hashtag, puisqu'on parle jeune, pourrait être « passion désacralisation ». Vous voyez, c'est un peu ça. Par exemple, Gustave Flaubert, il a vécu la révolution de 1848. Et ben, quand il l'a écrit, ça a été pour raconter une déferlante de médiocrité. Il n'était pas du tout dans la mystique révolutionnaire à la Mélenchon. Son hashtag, plutôt « révolution, bande de bouffons ». Et ben, Jean Mécker, c'est un peu pareil. Jean Mécker, c'est un immense écrivain qui était complètement tombé dans l'oubli et qui est réédité depuis quelques années grâce à des éditeurs sensibles au talent. Et Jean Mécker, il en a. Quand il publie pour la première fois en 1940 son roman qui s'appelle « Les coups », eh bien André Gide, Raymond Queneau ou Roger Martin Dugard sont stupéfaits par ce texte. Et son roman que je vous chronique aujourd'hui, qui s'appelle « Nous avons les mains rouges », il le publie en 1947 et il vient d'être republié d'ailleurs depuis janvier-février, donc il est encore en librairie. Lui, il le publie en 1947 et il s'en prend à un mythe absolu qui est la résistance. Passion, désacralisation, on est en plein dedans. Mécker invente un groupe d'anciens résistants qui habitent dans un village de la montagne et pour eux, la libération a un goût plutôt amer. Ils sont écœurés par les anciens collabos, par les anciens profiteurs de guerre qui n'ont eu aucune sanction et qui se la coulent douce. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils partent à la nuit tombée pour les tuer. Vrai problème philosophique. Est-ce qu'on peut tuer au nom du bien ? Est-ce qu'on peut se comporter en tueur en série avec préméditation uniquement parce qu'on vise une société plus juste et plus digne ? Notez que Robespierre avait répondu oui à cette question et qu'il a mal terminé, et que ce groupe de résistants répond oui également, mais je ne vous donne pas la fin. Et toute l'action est racontée par un personnage qui s'appelle Laurent, qui est nouveau dans le groupe et qui découvre ses pratiques. Et c'est lui en fait le regard du lecteur. C'est lui qui se dit, juste après avoir tiré dans le front d'un ancien collabo, « Justicier, bourreau, tueur, j'ai les mains rouges, il n'y aura plus de clair de lune. » À un moment quand même, un peu perturbé par ses expéditions sanguinaires, il demande « Mais ce que vous faites, ce serait quand même pas par hasard appliquer la même barbarie que vous dénoncez ? Votre idéal de société pure et débarrassée de traîtres, ça ferait pas un peu compète avec l'idéal nazi ? » Et une des filles du groupe, bah ouais, et une des filles du groupe, bah si,
okay.
Et une des filles du groupe qui s'appelle Hélène lui dit, je veux rendre coup pour coup, je prie pour une hégémonie du sang pur, pour une aristocratie des âmes fières. Et puis elle fond en larmes en disant, je suis malheureuse, Laurent. Donc vous entendez la force noire de ce texte, ce que ça remue en nous, parce qu'on a tous eu envie de trucider des trucideurs, on a tous eu envie de cambrioler des cambrioleurs ou de péter les dents d'un harceleur, mais comme Hélène, en disant « eh ben, je veux rendre coup pour coup ». Donc je vous laisse méditer ce cantique de la violence, accessoirement descendre à la cave pour libérer cet inspecteur des impôts que vous tenez ligoté depuis quelques semaines, au nom de Jean Mecker. Je vous redonne les références. Ouais. Nous avons Les Mains Rouges de Jean Mecker et paru chez Joël Losfeld. Et c'est dans vos librairies qui ont ouvert à nouveau.
Merci Clara Dupont-Monod. Et donc là, vous êtes au bureau, vous êtes chez vous?
Je suis au bureau. Oui, oui.
Dites donc. Alors ça se passe comment? Vous pouvez être.
Mais moi, je dois faire partie de l'infime minorité des gens qui adorent la vie de bureau. J'adore les trombones, les tac-tac de mes talons sur le sol. Mais c'est vrai, j'adore la photocopieuse.
Pas toute la semaine, deux jours par semaine, ça tourne, c'est ça?
Voilà, ça tourne. Maximum 8 dans l'entreprise.
Ah, maxi- vous faites des tournantes alors. Donc.
C'est une tournante d'entreprise.
Au sens littéraire du terme, donc. Voilà.
Merci pour tout.
Donc, clore.
Merci.
Clore.
Je viens d'apprendre que je suis licenciée, je vous remercie.
Bon, alors passons plutôt à la musique. Anxiété en jolie chanson, c'était Pomme sur France Inter, la playlist. Alors on a beaucoup de chance de pouvoir écouter la chronique de Clara aujourd'hui. Je dirais même on a beaucoup de chance de l'écouter tous les jours depuis 2 mois. C'est un petit miracle presque quotidien, je dirais. Je rappelle juste jusqu'à la semaine dernière, vous étiez dans les Cévennes.
Oui.
Maintenant que vous êtes à Paris, c'est une page du making-of de Parjubidémie qu'on croyait... se tourner, c'est, si ce n'est que les problèmes de connexion que vous avez aussi à Paris.
Oh non.
Alors on va faire les choses dans l'ordre et on va retourner aux problèmes de connexion dans les Cévennes. Oh c'est le making of. Clara.
Ouais, c'est Clara.
Salut chérie. J'ai plus de connexion sur mon ordinateur.
Oh merde.
Ouais. Ah,
pourquoi?
Je sais pas, je comprends pas.
Est-ce que tu as fait une mise à jour que tu aurais peut-être pas dû faire?
Bah là, il me dit nouvelle mise à jour, redémarrer pour les installer ou attendre cette nuit.
Oh, on n'a qu'à faire l'émission cette nuit alors.
T'es pas branché à une box d'un voisin où il te demande un mot de passe? Non, pas.
Bah, d'un voisin dans les Cévennes.
Ouais, ça c'est clair. Attends.
Non, non, mais tu as rebooté ta box?
C'est
tu l'as redémarré? T'as débranché, rebranché?
Ah, alors attends, merci. Je vais demander à ma mère. Maman?
Maman,
là, l'étonnement.
Mais moi, j'ai jamais demandé de l'aide à ma mère pour un problème informatique.
D'habitude, c'est l'inverse. Hein. C'est la mère qui demande.
Moi, je pense que ma mère, elle fait un AVC si je lui demande quoi que ce soit qui relève de ça.
Ma mère, la semaine dernière, je lui ai appris comment transférer un mail.
Oh,
j'ai éteint la box et rallumé.
Ouais.
J'ai plus internet. Je comprends pas, putain.
Attends, mais laisse-la se réinitialiser, la box.
On est face à une personne qui panique. et qui ne peut pas très bien gérer cette panique.
Est-ce que tu as sur ton téléphone portable, est-ce que tu as de la partage de réseau?
Oui, mais j'ai jamais compris comment on faisait. Alors, faut que tu me dises comment je fais.
Attends. C'est quoi, c'est un Samsung?
Ouais, non, c'est un Huawei.
Oh putain, en plus, je connais rien.
Ouais. Et sinon, on rediffuse un truc de Jack London. C'est sur Jack London, non?
Ah ouais, tu l'as déjà fait.
Ça y est, vous me voyez là ou pas?
Ouais.
Mais attends, on la voit sur l'ordi. Par Skype, sur téléphone, François, qu'est-ce que je fais?
Mais tu éteins le téléphone. Hein, Clara? Elle n'est plus là.
Si vous avez besoin d'un bon SAV, toute l'équipe de Par Jupidémie est à fond sur les dossiers, sur François Audouin, notre réalisateur. C'est tellement long, ça arrive tellement souvent qu'il y aura un épisode 2 demain et qu'aujourd'hui, c'est passé qu'on pourrait faire un épisode 3 si on voulait. Et merci à Ramzi Assadi qui a retrouvé tout ça. Et c'est du dérochage, comme on dit. Hein. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail.
Juste une petite précision, ma mère est un hacker. Donc, ce n'est pas uniquement parce que je retombe en enfance, c'est qu'en tant que Sévenole, elle bricolerait n'importe quoi, donc je me suis tournée vers elle dans un élan certes désespéré, mais néanmoins, pas complètement efficace. Mais bon.
On sous-estimait la capacité du SAV Sévenole, on le sait maintenant. Passons au dessin. Ah. La basilique de Saint-Denis a mis en service un distributeur automatique d'eau bénite.
C'est malin.
Bonne idée. Donc, je propose que tu crées ta start-up et que tu déclines le concept. Invente le brumisateur d'eau bénite, le cubi d'eau bénite, le bac à glaçons d'eau bénite, ou d'autres objets pour équiper la maison de Dieu. Parce qu'il faut que la maison de Dieu soit super équipée, bien sûr, dans le monde d'après.
Le cubi d'eau bénite.
Mais bien sûr. Allez, laisse ouvert ton imagination. Tu postes tes dessins, de la création de ta start-up, ce que tu veux sur Twitter.
Hashtag par Jupiter. Courtoisie.
Exactement.
Très content d'avoir cette idée.
Le cinéma a sa chapelle dans cette émission. La famille Croisière a retrouvé les joies de la plage dynamique au Cap Ferret. Le soir, c'est soirée statique sur le canapé devant un film. Oui, mais lequel?
Confiné volontaire avec mes duos filios, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était
2h moins le quart avant Jésus-Christ
de Jean-Yann.
Après deux échecs cinématographiques et un exode fiscal, Jean-Yann croise à Los Angeles le producteur Claude Berry qui venait de signer 4 films avec Coluche, son poulain futur pantin. Le nabab du cinéma français cherche des idées et ça tombe bien, Yann a celle d'un héros mélange de Judas Bénur, conducteur de char et pote de Jésus, et Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris et station de métro.
Marcel, c'est un mécanicien.
Un garagiste,
exactement. et le président de l'assemblée des marchands en colère, là, et en fait il se fait emprisonner. Le consul, il complote contre l'empereur. Et donc, il prend Marcel, là, pour comploter.
Il est charagiste. Et cette histoire, avec un petit H, lui permet de revisiter celle avec un grand, en surfant sur les succès de la pitonesque Vite Brian et la Mel Brooksienne Folle Histoire du Monde.
J'ai beaucoup aimé 2h moins le quart avant Jésus-Christ, parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas dans l'époque. Par exemple, il y avait des pubs partout sur les murs du stade de course de chars. Il y avait la télévision dans un bout de pilier, par exemple, dans les bars. Il y avait des trucs où on se servait, là, où on appuie sur un bouton, ça sert. Et voilà.
L'anachronisme est le ressort comique du film. Troisième plus gros budget français de 1982, Jean-Yann en profite pour faire du placement de produits en latin avec les Puellum Tefalum ou du Panem Vinum Bursinum, faire tourner les copains d'Harry Cole, Paul Prébois ou André Pousse, rejouer avec son ex Françoise Fabian et son actuel Mimi Coutelier, recycler son sketch La Circulation à Rome avec son ami Paul Mercet et recycler la partition du cajofolesque Michel Serrault en César Napoli, tout de cuir et moustache, dans une accumulation de clichés homosexuels éculés, tirant ce film vers le navet César.
C'est l'histoire de Rome, mais à la façon un petit peu Monty Python, je trouve.
Je suis pas trop de l'avis de Gaston, moi je préfère largement les Monty Python. Mais j'ai quand même bien aimé, et à part de dire que c'est un film débile, j'ai... pas grand-chose à dire sur ce film.
Tu aurais pu dire qu'il y a de formidables fulgurances, comme ce clin d'œil tout à la rencontre du troisième type, le quiproquo Coluche Serrault sur le fait d'en être ou pas, et puis le regard désabusé de Yann sur ses contemporains, car César ne serait pas un loup si les Romains n'étaient pas des agneaux.
Ils vous prennent pour des cons.
Parce que vous êtes cons.
Et donc, tellement ils ont passé de temps à vous traiter de cons, c'est trop tard, on peut plus vous libérer des chaînes de la conneté.
La conneté, ou plutôt la connerie qu'il dénonce dans un esprit rappelant Guillaume Meurice dans ses meilleures minutes, et elles sont rares.
Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Ouais. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Ouais. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Ouais. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Ouais. Vous avez raison, mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
4 600 000 cons allèrent voir le film en salle, relançant ainsi la carrière du réalisateur qui s'arrêta définitivement 3 ans plus tard avec l'échec de Liberté, Égalité, Choucroute. C'est con. Vive le cinéma!
Merci Thomas Croisière, merci beaucoup Alfred et Gaston, dont le regard est de plus en plus affûté. Hein. Ça va finir. Ça va finir au masquer la plume, ça, ils sont en plein.
On dit bien finir là-bas.
Merci,
oui, effectivement.
Les amis, bisous à vous au Cap Ferret, et merci à tous dans toute la France, zone verte ou zone rouge. Merci aux tauliers de notre établissement, Alex Vizorek, Juliette Arnoux, Guillaume Meurice, Thomas Croisière. On vous retrouve demain.
Mais bien
oui,
sûr,
oui.
Tout à fait, c'est oui.
Merci à ceux qui étaient là aujourd'hui, Constance, Mélanie Bauer, et à très bientôt, Clara Dupont-Mono.
À bientôt, mais déconfinée.
Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, assisté de notre stagiaire Kélian Yousfi, à la programmation musicale, le fameux Djoubaka, à la réalisation, le non moins fameux François Audouin, à la coécriture et la coordination, le plus en plus fameux Ramzi Assadi, à la technique, Kevin Pelot, Julien Michel. Vive les messes aux drive-in et les distributeurs automatiques d'eau bénite. Et voici le mot de la fin qu'on dédie à tous ceux qui, dans le monde, travaillent au ministère de la Santé.
Qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que je fous ici?
Moi aussi, je me le demande. Que veux-tu? Le monde change et nous, on suit, hein?
Non! On subit, c'est pas pareil, Ducatel! Le monde ne change pas! Il part en sucette et nous avec!